Chapitre 24. La 206 banalisée d'Alexis ralentit lorsque le GPS lui indiqua qu'il était à moins d'un kilomètre de sa destination. Il venait de traverser la forêt de Saint-Germain-en-Laye et approchait d'Achergues-en-Cormier, qui était, pour ce qu'il avait pu en apprendre sur le trajet, juste une gare perdue dans une immense zone de tri ferroviaire, cernée d'arbres. Il y avait à peine quelques maisons et une poignée d'immeubles minuscules pour justifier les rares arrêts de train. Un lieu isolé, oublié par l'urbanisme, sans aucun commerce. Une centaine d'habitants, pour l'essentiel des cheminots, œuvrant dans la zone de tri, et une route nationale, surplombant l'ensemble sur un pont en béton aussi laid qu'inattendu en pleine forêt. Alexis voulait voir, contempler l'antre du mal. Jamais il n'avait été confronté à un tueur de cette sorte. Et il ne se leurrait pas. C'était assez exceptionnel dans une vie de gendarme pour être la première et dernière fois. Il ne voulait pas que tout lui échappe. Et en tant que responsable de l'affaire, surtout pas tout planter avec des déductions rapides. Pourtant, au fond de lui, il le savait. Victor Mag était leur homme. Tout s'emboîtait trop bien. Mais il se méfiait des certitudes, de l'aveuglement. Et plus que tout, il voulait le voir de ses propres yeux. Seulement le voir et sentir. Alexis n'était pas non plus suicidaire, ni pour sa personne, ni pour sa carrière professionnelle. Il était hors de question qu'il joue au cow-boy, étant une arrestation seule. Le fantôme était dangereux, probablement armé. C'était au GIGN d'intervenir. Lui, comme Ludivine et Seignon, seraient en arrière, pour assister à l'opération. Mais il laisserait faire les spécialistes. Il ne venait jusqu'ici qu'en éclaireur, en somme. Ne prendre aucun risque et lâcher la meute au bon endroit, sur le bon type. Achergues-en-Cormier était fidèle à l'image qu'il s'en était faite. Une boursouflure industrielle déserte, au milieu de nulle part. Coincée entre plusieurs kilomètres de nature, avec pour tout divertissement des prostituées sur les bas-côtés de la Nationale, à l'entrée des chemins de promenade. Les filles attendaient le client, pour la plupart des routiers qui rendaient la route bruyante avec leur passage incessant, assises sur des troncs renversés, ou à l'abri derrière la végétation, seulement signalée par la présence d'un sac plastique plein de préservatifs suspendus à une branche. Ces étranges fruits, blancs pour la majeure partie, pendaient et tremblaient à chaque passage de camion. Prêts à se détacher, comme s'ils étaient trop mûrs, un verger de plaisir sordide. Le fantôme avait bien choisi son coin. Des putes originaires de pays de l'Est pour l'essentiel, dont les macs ne seraient pas prompts à prévenir la police en cas de disparition. Victor Mac venait-il ici parfois se défouler? Était-ce un terrain de jeu? Il avait déménagé au moment de son premier crime, probablement effrayé, voulant s'éloigner de la zone où il avait fauté. Il connaissait le secteur, assez peu éloigné de l'hôpital du Bois-Larry. Il avait eu besoin de prendre de la distance, de se rassurer. Avait-il choisi Achergues-en-Cormier pour son isolement? Un hameau de passage permanent, avec des filles faciles à enlever tout autour. Quand bien même les flics finiraient par s'intéresser à ces disparitions, combien de milliers de véhicules passaient chaque jour par cet accès? Combien de trains de marchandises circulaient juste en dessous? Avant qu'on remonte jusqu'à lui, le fantôme aurait tout loisir de déménager une fois encore. Alexis suivit les indications du GPS, quitta la Nationale et s'engagea sur une petite route étroite, prise en étau, entre les voies de chemin de fer et la forêt. Il longea plusieurs pavillons gris, tristes à mourir. Façades fissurées, fenêtres sales, minuscules jardins en friche, linge étendu dans l'humidité et le froid. Sur des fils qui couraient face au train. Pas âme qui vive en vue. Pas même une voiture garée. C'était à se demander si Grand-Cormier n'était pas un hameau fantôme. Le chemin continuait après les dernières habitations. Les bas-côtés transformés en décharges. Couverts de sacs poubelles, de réfrigérateurs rouillés, de pièces de moteurs, d'huisseries vermoulues. Le GPS affirmait qu'il restait 200 mètres avant la destination finale. C'est alors qu'Alexis aperçut le toit d'une construction à l'écart du hameau. Il préféra ne pas ralentir en passant devant. Le fantôme habitait là, dans une bâtisse ancienne. À la peinture d'Ekati, au store d'acier oxydé à moitié fermé, un plein pied rehaussé sur un sous-sol semi-enterré. Pour ce qui l'en distingua au passage, Alexis nota que le jardin était dans un état lamentable, envahi de ronces et de hautes herbes. Il avait vu une voiture à l'arrière. Il est là. Alexis vérifia son téléphone portable. Le réseau était bon, aucun problème de ce côté-là. Il poursuivit son chemin sur un demi-kilomètre et se gara au pied d'un bâtiment de la SNCF. Un petit entrepôt, non loin d'une tour d'aiguillage, qui surplombait l'immense panorama des voies démultipliées de la zone de tri. Il remarqua au loin une silhouette qui marchait, un sac à la main, entre deux constructions brunes. Il y avait bien un peu de vie ici tout de même. Mais le fantôme était tranquille. Personne pour l'embêter. Pour les pieds. Il pouvait multiplier les allées et venues sans que quiconque ne le remarque. Un train passa de l'autre côté de l'étendue, crachant son vacarme métallique. Alexis ne voulait pas en rester là. Il n'était pas venu jusqu'ici pour repartir sans son trophée. La certitude que c'était bien lui. D'un regard, il saurait. Il y avait quelque chose du domaine de la légende là-dedans. Le chasseur et le traqué, qui se reconnaissent instantanément, sans dire un mot. À moi de faire en sorte que lui ne me voie pas. C'était primordial. Le gendarme marcha pour se rapprocher de la maison de Victor Mag, et lorsqu'il fut tout près, il s'enfonça dans le sous-bois et progressa tout doucement pour finalement se trouver un poste d'observation à moins de 10 mètres de l'antre du monstre. Il donnait sur le flanc de la maison, sur une petite porte et 2 fenêtres opaques. Un break Volvo était garé face à un garage en bois, en très mauvais état. Pendant 1 minute, Alexis se demanda ce qu'il faisait là. Seul, planqué dans la forêt à guetter le repère glauque de ce qui pouvait être un tueur en série. Un homme capable de tuer 5 personnes, juste pour sa propre jouissance, pour exercer son pouvoir, pour jouer à Dieu, parce que la souffrance et la peur des autres étaient ses uniques sources d'orgasme. La forêt vivait tout autour de lui. Elle bruissait du vent dans ses branches, des animaux qui se faufilaient, invisibles, et grouillaient de tous les insectes qui en constituaient le tapis naturel. Un renard poussa un glapissement étouffé au loin. Alexis crut reconnaître le cri qu'il avait souvent entendu à la campagne, l'été, lorsqu'il était gamin. Il fit tourner son iPhone dans sa poche. Il était nerveux. Combien de temps allait-il rester ainsi? Jusqu'à quelle heure se donnait-il avant de renoncer? De craquer. Le temps qu'il faudra. Juste pour le voir. Pour savoir. Un autre train passa à bonne distance, suffisamment bruyant pour que le martèlement de ses roues recouvre tous les sons environnants. Puis les bruits de la nature reprirent. D'ici, on ne percevait même pas le trafic de la nationale. Trop loin. Trop encadré par les arbres. Le renard glapit à nouveau. Plus proche, sembla-t-il à Alexis. Mais toujours aussi étouffé. Même les animaux prenaient leurs précautions pour s'exprimer ici. L'iPhone se mit à sonner, et Alexis sursauta avant de se précipiter dessus pour le mettre en mode silencieux. Il leva la tête vers la maison. Pas un mouvement. Personne ne l'avait entendu. Un SMS. Ludivine. Qu'est-ce que tu fous? Les doigts fusèrent sur le clavier. Préviens le colonne. GIGN en alerte. J'ai peut-être du lourd. 15 secondes plus tard, Ludivine appelait. Alexis refusa la communication et expédia un nouveau SMS. Peux pas parler. Qu'est-ce que tu fous? Tu es où? Alexis hésita. Il en avait trop dit. Il ne pouvait plus attendre. Il envoya l'adresse où il se trouvait. Victor Mag, je crois que c'est lui. Tu es sur place? Alexis attendit plus de 2 minutes la réponse de Ludivine. « Tu ne bouges pas, on arrive !» Cette fois, il n'avait plus qu'à prier pour ne pas s'être entêté et aveuglé sur une fausse piste. D'ici 2 heures, 20 de gendarmes en tenue d'intervention grouilleraient tout autour. Un hélicoptère en repli, prêt à intervenir, et tout l'état-major de la gendarmerie serait prévenu, en alerte. Il n'avait plus que 2 heures à tenir. 2 toutes petites heures.